C'est une sombre histoire et presque incroyable, dit Béranger. Il semble donc que Jean ait en tête de soutenir que les justes ne jouiront de la vision béate qu'après le jugement. Depuis longtemps, il réfléchit sur le verset 9 du 6e chapitre de l'Apocalypse, là où on parle de l'ouverture du 5e sceau, où apparaissent sous l'autel ceux qui ont été égorgés pour avoir témoigné de la parole de Dieu et demandent justice. On donne à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu. Signe, en déduit Jean, qu'ils ne pourront voir Dieu dans son essence avant l'accomplissement du jugement dernier. « Mais à qui a-t-il débité ses sornettes ?» demanda Michel atterré. « Jusqu'à présent à une poignée d'intimes, mais le bruit s'est répandu. On dit qu'il est en train de préparer une intervention ouverte. Pas dans l'immédiat, peut-être dans quelques années. Il consulte ses théologiens. »« Ha, ha, ha !» ricana Jérôme en mastiquant. « Non seulement, il semble qu'il veuille aller plus loin et soutenir que l'enfer non plus ne sera pas ouvert avant ce jour. Pas même pour les démons.
« Seigneur Jésus, aide-nous !» s'exclama Jérôme.
« Et que raconterons-nous alors aux pécheurs, si nous ne pouvons les menacer d'un enfer immédiat dès l'instant où ils meurent ?»« Nous sommes dans les mains d'un fou, » dit Hubertin. « Mais je ne comprends pas pourquoi il veut soutenir pareille chose. »«
Toute la doctrine des indulgences part en fumée, » déplora Jérôme. « Et même lui ne pourra plus en vendre. Pourquoi un prêtre qui a fait péché de bestialité devrait-il payer tant de lire en or pour éviter un châtiment aussi lointain ?»
« Pas si lointain que ça, » dit avec force Hubertin. « Les temps sont proches. »«
Tu le sais, toi, cher frère, mais les saintes ne le savent pas. Voilà où nous en sommes, » cria Jérôme, qui n'avait plus l'air de se délecter en mâchonnant. « Quelle idée néfaste ce sont ces frères prêcheurs qui ont dû la lui fourrer dans le crâne. Ah !»
Et il secoua la tête.
« Mais pourquoi ?» répéta Michel de Cézanne.
« Je ne crois pas qu'il y ait une raison, » dit Guillaume. « C'est une preuve qu'il s'octroie, un acte d'orgueil. » Il veut vraiment être celui qui décide pour le ciel et pour la terre. J'étais au fait de ces rumeurs. Guillaume de Cam m'en avait écrit. Nous verrons à la fin qui, du pape ou des théologiens, de la voix de l'Église entière, des désirs même du peuple de Dieu, des évêques, l'emportera.
Oh, sur des matières doctrinales, il pourra plier même les théologiens, dit tristement Michel.
N'est pas dit, répondit Guillaume. Nous vivons en des temps où les savants, est-ce chose divine, n'ont crainte de proclamer que le pape est un hérétique. Les savants, est-ce chose divine, sont à leur façon la voix du peuple chrétien. Et la contre, pas même le pape ne pourra désormais aller.
De mal en pis, murmura Michel effaré. D'un côté un pape folle, de l'autre le peuple de Dieu, qui, fût-ce par la bouche de ses théologiens, prétendra d'ici peu à l'interprétation libre des Écritures.
Pourquoi ? « Pour votre part, qu'avez-vous fait de différent à Pérouse ?» demanda Guillaume.
Michel eut une secousse, comme piqué au vif.
« C'est pour cela que je veux rencontrer le pape. Nous ne pouvons rien faire, nous, s'il n'est pas d'accord, lui. »«
Nous verrons bien, » dit Guillaume d'une façon énigmatique.
Mon maître était vraiment d'une grande acuité d'esprit. Comment faisait-il pour prévoir que Michel, soi-même, déciderait par la suite de s'appuyer sur les théologiens de l'Empire et sur le peuple pour condamner le pape ? Comment faisait-il pour prévoir que, quand 4 ans plus tard Jean aurait énoncé pour la première fois son incroyable doctrine, il y aurait eu un soulèvement de la part de toute la chrétienté? Si la vision béatifique était retardée à ce point, comment les défunts auraient-ils pu intercéder pour les vivants? Et où aurait fini le culte des saints? C'est justement les minorites qui ouvriraient les hostilités, en condamnant le pape, et Guillaume de Cam serait en première ligne, sévère et implacable dans ses argumentations. La lutte durerait 3 ans, jusqu'à ce que Jean, arrivé au seuil de la mort, fasse en partie amende honorable. Je l'entendis décrire des années après, tel qu'il apparut dans le consistoire de décembre 1334, plus petit qu'il n'était jamais apparu jusqu'alors, desséché par l'âge, nonagénaire et moribond, et il aurait dit, le renard si habile à jouer sur les mots non seulement pour violer ses propres serments, mais aussi pour renier ses propres obstinations, « Nous reconnaissons et nous croyons que les âmes séparées du corps et complètement purifiées sont au ciel, au paradis avec les anges et avec Jésus-Christ, et qu'elles voient Dieu dans sa divine essence clairement et face à face. » Et puis, après une pause, personne ne sut jamais si dû à des difficultés respiratoires ou dans la volonté perverse de souligner comme adversative la dernière clause, « dans la mesure où l'état et la condition de l'âme séparée le permettent. » Le lendemain matin, c'était un dimanche, il se fit installer sur une chaise longue et au dossier incliné, il agréa de ses cardinaux le baiser de la main, et il mourut. Mais de nouveau je divague et je perds le fil de mon récit. C'est qu'aussi dans le fond, le reste de cette conversation à table n'ajoute pas grand-chose à la compréhension des événements que je raconte. Les minorites s'accordèrent sur l'attitude à avoir pour le lendemain, ils pesèrent un à un leurs adversaires, ils commentèrent avec préoccupation la nouvelle donnée par Guillaume de l'arrivée de Bernard Guy, et davantage encore le fait que la présidence de la légation reviendrait au cardinal Bertrand du Poghetto. Deux inquisiteurs, c'était trop. Signe qu'on voulait utiliser contre les minorites l'argument de l'hérésie. « Tant pis, dit Guillaume, ce sera nous qui les traiterons d'hérétiques, eux. » « Non, non, dit Michel, procédons avec prudence. Nous ne devons compromettre aucun accord possible. » « J'ai beau tourner et retourner la question, dit Guillaume, tout en ayant œuvré pour la réalisation de cette rencontre, et tu le sais bien, Michel. Je ne crois pas que les Avignonnais viennent ici en vue d'un quelconque résultat positif. Jean te veut en Avignon seul et les mains nues, mais la rencontre aura au moins pour effet de te faire comprendre cela. C'eût été pire si tu y étais allé avant cette expérience. Ainsi, tu t'es mis en quatre, et des mois durant pour réaliser une chose que tu crois inutile ?» dit Michel avec amertume. « Qui m'avait été demandé, et par toi et par l'empereur, » dit Guillaume. « Et puis enfin, il n'est jamais inutile de mieux connaître ses propres ennemis. » C'est à ce point-là qu'on vint nous prévenir. La deuxième délégation franchissait l'enceinte, les minorites se levèrent et allèrent à la rencontre des hommes du pape.